Systems accessed.
Système jungle de salle de bain.
Activate.
Vous êtes bien sur la locale 97.3 à Saint-Girons.
Activate.
Hé,
je crois que ta voisine est féministe.
Non.
Et est-ce que ta voisine écoute la radio?
C'est jamais mon voisin qui ferme les volets, c'est toujours ma voisine.
Vous êtes bien sur la locale 97.3 et vous écoutez. Ta radio est féministe. Non, pas encore.
Et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Tu t'apprêtes à écouter ta...
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la locale 97.3 à Saint-Girons et vous allez écouter maintenant un montage qui dure 1h20, c'est une émission spéciale de Ta voisine est féministe. On vous propose d'écouter la présentation d'un livre qui s'appelle « L'accouchement et politique » par ces deux autrices, Béatrice Cascales et Laetitia Négrier. Et c'est une présentation qui a eu lieu au mois de septembre dernier à la bibliothèque féministe du Mas d'Asile. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute.
Bienvenue à nous, bienvenue à vous. On va se présenter d'abord, après on va présenter un peu une démarche, des choses qu'on a à dire qui sont importantes aussi, voilà, sur tout ça. Et puis ensuite on va présenter le livre, c'est là que ça va se corser.
Ouais.
Et...
Je m'appelle Laetitia, moi j'ai été doula pendant 10 ans. Donc les doulas, ce sont des accompagnantes à la naissance qui s'occupent du soutien émotionnel des personnes qui attendent des enfants. Et aussi qui s'occupe de transmettre des informations à la fois sur la physiologie de la grossesse et sur ce qui se passe en structure médicale en vue d'aider les personnes à s'autonomiser et à faire des choix. Et donc j'ai également accompagné des accouchements, toujours en présence d'une sage-femme, donc à domicile ou en structure hospitalière. Et donc, de fait, étant donné ce qui se passe autour de la question de la prise en charge de l'accouchement, je suis devenue militante autour de cette question-là. Et au bout d'un certain nombre d'années, j'ai vu que ça bougeait pas et je savais qu'il y avait des personnes bien avant moi qui avaient milité autour de ces questions depuis les années 70 et que ça ne changeait rien. Donc, à l'époque, j'ai décidé d'aller au planning familial, faire une formation de conseillère conjugale, à la fois pour légitimer ma place d'accompagnante à la naissance qui n'est pas reconnue en France, et à la fois pour tenter de faire pénétrer cette cause au sein du planning, parce que c'est une institution qui a une certaine reconnaissance, et j'avais espoir que le planning allait porter la question des violences obstétricales, des maltraitances faites aux femmes pendant la grossesse et l'accouchement. Du coup, j'avais un pied dans le milieu de la naissance respectée et un pied dans le milieu du féminisme institutionnel. Et des deux côtés, j'ai subi des rejets que j'analyse aujourd'hui comme étant à l'image des clivages qu'il y a entre les mouvements féministes radicaux ou institutionnels et ceux de la naissance respectée. Donc là, les choses, elles sont en train de changer. Entre le moment où notre livre a été publié, où on a commencé à écrire, ou alors entre le moment aussi où j'ai intégré le planning, on a vu une grosse visibilisation de ces questions-là. Mais en tout cas, je pense qu'encore aujourd'hui, en tout cas en milieu institutionnel, il y a un refus de la question de la maternité en milieu féministe institutionnel et il y a un refus de certaines questions féministes du côté des militantes de la naissance respectée. Voilà, et je voulais vous dire aussi que on a un parcours du coup de militantes. Et aussi un parcours par rapport à l'écriture du livre qui montre aussi tous ces enjeux-là. Bon, je m'appelle
Béatrice. J'ai été salariée et militante du planning à Montpellier pendant 15 ans. Et il a fallu que je rencontre Laetitia pour me rendre compte cette espèce de clivage qu'il y a entre le féminisme et la maternité. Ce clivage-là, en fait, je le vivais à l'intérieur de ma propre personne, en fait. Donc voilà, j'ai compris progressivement en travaillant là-dessus que en fait, ce que j'avais vécu moi en tant que personne, en tant que militante, c'était à l'image de ce qui s'était passé au sein de beaucoup de mouvements féministes, en fait, cette espèce de séparation entre ces questions, même si on va en parler, beaucoup de féministes ont enfanté, ont fait des enfants. Donc je me suis aperçue que je m'interdisais de penser toutes ces questions qui sont liées à la maternité, aussi bien en tant qu'expérience, en tant que expérience physiologique, mais aussi en tant que un peu réalité sociale. Donc toutes ces questions-là, je les mettais de côté, je les pensais pas, et je pouvais pas imaginer non plus que c'était une question politique. Voilà, donc ça, il y a eu comme une espèce pour moi de renversement, de prise de conscience, etc. Et puis, l'écriture du livre, d'abord l'accompagnement de l'écriture du mémoire de Laetitia, beaucoup de discussions. Je fais partie des personnes qui, au début, ouvraient des yeux grands comme ça, les violences obstétricales, parce que j'ai eu la chance, mais je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas su sur le moment, j'ai eu la chance d'avoir un accouchement respecté. Et donc ça me parlait d'autant moins les violences obstétricales que je n'en avais pas trop subi. Enfin, j'ai subi un geste qui est considéré comme violence obstétricale, mais je l'avais pas ressenti comme ça. Voilà, et donc aujourd'hui, on accompagne le livre et puis je me sens vraiment engagée aussi dans cette avancée du mouvement féministe, et on pense et on prend à bras le corps les questions liées à l'accouchement, à la grossesse, à l'accouchement, à la maternité, et puis aussi à la parentalité. Donc, essayer de... Voilà. Donc, je continue, je vais dire deux, trois mots sur le livre, en fait, et je vais essayer d'être fidèle au texte. Donc, désolé, on va lire un peu, on espère que ça ne va pas être trop soporifique. Voilà, donc, en fait, ce qu'on a essayé de faire en écrivant ce livre, on avait plusieurs intentions. Déjà, rendre visible la dimension sexuelle de la grossesse et de l'accouchement. Rendre visible aussi les violences obstétricales, ça y est, maintenant elles sont ultra médiatisées, donc on les voit. Ce qu'on voulait surtout, c'était proposer une analyse féministe des violences obstétricales, et donc pour faire apparaître qu'il s'agit pour nous d'un dispositif d'appropriation institutionnelle des femmes qui sont en situation de maternité. On a essayé de faire cette analyse, on a essayé de... peut-être pas de dépasser, mais de faire avec les divisions qu'il peut y avoir et l'hétérogénéité qu'il peut y avoir entre les mouvements féministes, parce qu'il y a plein de féminismes au pluriel, et on a même espéré que l'analyse qu'on pourrait proposer, en fait, elle pourrait participer à essayer de rassembler l'ensemble des personnes et des mouvements qui se battent pour l'autodétermination sexuelle et reproductive, incluant la grossesse et l'accouchement, pas simplement s'arrêter à la défense du droit à la contraception et à l'avortement. Avant de rentrer vraiment dans la présentation du livre, on voudrait faire deux, trois précisions, enfin en tout cas surtout sur par rapport à la présentation qu'on va faire là, oralement, et comme d'ailleurs dans le livre aussi, on voudrait dire que quand on utilise le terme « femme », en fait pour nous ça renvoie au social, à la classe des femmes, et donc aussi à ce qu'on appelle la personne féminisée. Nous, on distingue dans le bouquin, et puis là aussi, c'est des termes qu'on va utiliser, les femmes, des femmes mères, parce que toutes les femmes ne sont pas mères, et d'ailleurs, les mères ne sont pas seulement des femmes qui ont accouché, et vice-versa, hein. Donc on peut avoir choisi d'accoucher, par exemple, sous X, et puis après, ne pas se sentir ou se considérer mère. Donc, quand nous, on utilise le terme femme, c'est souvent d'ailleurs au pluriel, plutôt les femmes, donc les personnes appartenant à la classe des femmes, et non pas la femme avec un F majuscule, etc. Donc pour nous, l'utilisation se fait en référence à... Enfin, justement, on ne veut pas se référer à une binarité ou à une dualité de sexe ou de genre. Nous, justement, on essaie de déconstruire ce dualisme, voilà, cette idée qu'il y a de sexe et de genre. Ce qu'on porte aussi avec notre livre, c'est carrément, soyons folles, l'espoir d'une réappropriation féministe de la grossesse et de l'accouchement. Et cette réappropriation, elle passe aussi par le fait que le désir et le projet de grossesse ou de parentalité puissent être accessibles aux personnes qui ont un utérus, un vagin, une vulve, un clito, et qui n'ont pas nécessairement des pratiques hétérosexuelles, ou qui ne s'autodéfinissent pas en tant que femme, ou même carrément qui auraient ces organes-là et qui s'autodéfiniraient en tant qu'homme. Ce qu'on a vécu, nous, dans nos rencontres en milieu féministe radical, aussi, c'est que comme on parle de grossesse et d'accouchement, et qu'on a des enfants, eh bien, ça nous échappe un peu, mais parfois ça fait violence, en fait, à des personnes qui sont présentes là et qui ont fait un choix politique de ne pas faire d'enfants, et qui peuvent nous percevoir comme un peu des gardiennes du genre et des gardiennes de l'hétérosexualité. Du coup, ces personnes, en fait, elles peuvent réagir elles-mêmes de façon violente vis-à-vis de nous, en nous hétéronormalisant ou en nous cisgenrant, alors qu'en fait, quand on rencontre des personnes, en fait, bon, on peut bien sûr se faire une idée comme ça, à première vue, en fait, on ne peut pas savoir, on ne connaît rien des pratiques et des vies des personnes qu'on rencontre, donc voilà, on a écrit un livre sur l'accouchement, mais voilà, donc ça nous fait aussi violence d'être comme ça étiqueté, et voilà, ce qu'on veut aussi dire, et qu'on essaie de développer dans le livre, c'est que bon, déjà d'une part ça se voit pas de l'extérieur si une personne se pense cisgenre, transgenre ou même autre chose, parce que peut-être qu'il existe autre chose entre cette alternative entre cisgenre et transgenre, peut-être. Et voilà, donc on essaie aussi de mener dans le bouquin une réflexion sur l'importance d'arriver à s'autodéfinir avec la justesse et quelque chose d'authentique aussi. Mais aussi cette espèce de... C'est compliqué en fait de se dire qu'on peut utiliser le terme « femme » pour référer à la classe des femmes, à cet aspect social, et que essayer de prendre ce terme et de se dire que c'est pas fait pour recréer du genre ou quelque chose du dualisme en fait entre les genres, et pourtant on a l'impression que c'est ce qu'on fait quand on dit femme, on a l'impression que voilà, quelque part on renaturalise le genre, alors que non, mais il faut bien pouvoir nommer la place des femmes, parce que sinon on fait disparaître l'oppression de genre, et du coup le féminisme il a plus voilà. Alors notre cheminement, il nous a conduit à construire notre texte, notre livre à partir de nos vécus personnels, nos vécus professionnels, nos vécus d'engagement aussi, et aussi en intégrant, en faisant appel à des témoignages, et en nous appuyant sur des références, beaucoup de références issues de la recherche sciences humaines et de la littérature militante féministe, des ouvrages vraiment des grands classiques de voilà du genre. Aussi, on veut dire, là c'est important, qu'on est bien consciente que justement, on est des femmes blanches qu'on a fréquenté l'université.
Un peu tard, pour moi.
Moi, très tôt. Et j'ai pas voulu tourner après parce que je me sentais plus bien. Avec le livre, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est on a voulu agir sur le terrain intellectuel sans renoncer ni à mener notre réflexion le plus loin possible. Et donc, c'est vrai que quand on commence à réfléchir et à écrire, ça peut vite devenir... absconce, tortueux, dense, inaccessible, ça c'est compliqué. Donc on a voulu quand même aller le plus loin possible dans la réflexion, et on n'a pas voulu renoncer non plus à rendre notre réflexion accessible à des personnes qui ne sont pas habituées à ces cadres de référence, à ces concepts, à cette manière d'écrire, de penser, etc. Et notre but, c'est vraiment d'arriver à articuler la théorie et la pratique, montrer montrer de façon concrète aussi que elles s'alimentent, elles se co-construisent l'une l'autre, hein, et qu'elles s'opposent pas, parce que aussi dans les milieux militants et Et voilà, en allant des fois à l'université, puis en étant dans différents espaces comme ça, on s'aperçoit qu'il y a une espèce d'opposition, pareil, qui recrée du clivage entre... voilà, on entend souvent parler des militants de terrain ou des universitaires, et on voit apparaître un peu cette image qu'il y aurait en fait seulement les militantes de terrain qui seraient dans l'action réelle, et donc une action qui serait plus légitime contre les oppressions. Et puis de l'autre côté, dans des sphères un peu déconnectées, il y aurait des intellectuels, des universitaires qui enculeraient les mouches dans un langage incompréhensible, bien loin des réalités et des vécus des personnes opprimées ou des personnes discriminées. Vraiment maintenant à la présentation du livre, tu veux dire un truc, non ?
Non.
Par rapport à ça ? En tant qu'intellectuelle blanche universitaire, femme ?
De terrain.
Ouais.
Mère ? Voilà. Non, ça va.
Merci. Voilà. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, entre le moment où on a commencé à faire la présentation du livre et aujourd'hui, on a vraiment changé ce qu'on dit en introduction sur la question du fait que la réalité des violences gynécologiques et obstétricales, elle était vraiment invisible il y a 2-3 ans. Et là, surtout cet été, en fait, il y a eu une médiatisation. Et voilà, il y a même des choses... il y a Marlène Schiappa qui a demandé un rapport au Conseil à l'égalité, etc. Donc c'est vraiment, ça y est, ça va devenir bientôt la grande cause nationale, un peu comme le handicap. Enfin, ça n'a pas donné grand-chose, mais oui, pour le handicap, oui.
Et ce serait une nouvelle question féministe.
Oui, aussi. Si, on va y venir.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui depuis 45 ans, se battent, elles n'existent pas. C'est une nouvelle question féministe.
De toute façon, elles sont ménopausées maintenant et elles n'existent plus.
Oui, c'est vrai.
Donc cette réalité qui s'est imposée ces dernières années grâce à Internet, récemment, elle a gagné les médias. Donc aujourd'hui, les milieux universitaires s'emparent de ces questions, comme de celles qui touchent aux diverses pratiques de maternité. Et ces travaux sont parfois présentés comme des nouvelles revendications féministes. Donc, les vécus et les difficultés des femmes mères ont été oubliés par les luttes féministes des années 70, qui étaient justement focalisées sur l'obtention du droit à la contraception et à l'avortement. Et là, je cite Gail Peterson qui a préfacé notre livre. Gail Peterson, notre caution féministe, nous que personne ne connaissait. Donc elle dit « Comme si le refus de la maternité était la seule réponse politique radicale, pourtant les femmes dans leur grande majorité accouchent d'au moins un bébé au cours de leur vie. » Même si on sait qu'il y avait des mobilisations contre l'appropriation médicale et institutionnelle des femmes en travail et des mères qui avaient lieu depuis une cinquantaine d'années au moins, donc c'est devenu comme un point aveugle, et ce point aveugle, il a grandement participé à ce que le corps médical gagne du terrain sur le corps des femmes en travail, et aussi ça a participé à exclure les femmes mères de l'agenda féministe. Et si aujourd'hui il y a des luttes autour de la maternité qui réapparaissent massivement, c'est aussi parce que, comme le souligne Silvia Federici, depuis maintenant 40 ans que les femmes travaillent à plein temps à l'extérieur, on ne peut plus soutenir, comme le faisaient les féministes des années 70, que le salariat mène à la libération. C'est ce que dit Silvia Federici.
Enfin, les femmes-mères qui travaillent se rendent compte de l'embrouille, en fait.
Voilà, non, c'est ça. Donc les femmes-mères qui finissent par percevoir l'arnaque dont elles ont été victimes, la magnifique phrase que tu as écrite, Laetitia. Il n'est pas possible de... Donc l'arnaque, c'est ça. Il n'est pas possible de, contrairement à ce qu'on nous dit, même si on s'organise très très bien, il n'est pas possible de concilier travail professionnel à temps plein, maternité et émancipation.
Sinon, on finit avec une bronchite à présenter un bouquin en Ariège.
Oui.
Oui. Sur les genoux.
La question de la grossesse et de l'accouchement redevient donc envisageable dans une perspective féministe. De ce fait, des mouvements œuvrant pour la naissance respectée peuvent être identifiés comme féministes, alors que notre expérience de terrain nous a confrontés à des personnes, surtout toi, hein, ou à des groupes qui se revendiquaient davantage comme féminins. Nous, féministes, non, mais féminines. Donc, du coup, et refusant de politiser leurs actions et leurs discours. Aujourd'hui, certains de ces mouvements acceptent l'étiquette féministe afin de légitimer leur lutte. Donc, il nous semble important de porter un regard critique sur ce qui se joue aujourd'hui autour de l'accouchement, en termes de confrontation de points de vue et d'idéologie, car on commence à entendre parler de nouveaux clivages qui seraient apparus au sein des mouvements féministes autour de cette question. Donc, on va essayer un peu de dépatouiller cette histoire de est-ce que réellement l'accouchement, c'est quelque chose qui vient cliver les mouvements féministes aujourd'hui et tout ça. Et donc je laisse Laetitia continuer.
Voilà, donc en fait, on peut dire que jusqu'en 2016, on peut dire que la question de l'accouchement, c'était un impensé féministe, et que donc l'une des conséquences de cet impensé, c'est l'invisibilité des violences obstétricales. Du moins jusqu'en 2017, même si il y a encore un déni persistant chez beaucoup de médecins. Donc on a choisi de ne pas rentrer dans le détail des violences obstétricales, parce qu'on s'est dit que vous étiez certainement déjà avertis, et que comme il y a beaucoup de choses qui sont sorties depuis, peut-être c'est pas la peine de revenir là-dessus. Et on souhaite mettre l'accent sur la compréhension que nous avons d'un point de vue historique, politique et féministe, sur quel sens elles prennent, ces violences obstétricales. Voilà, donc dans le livre, il y a tout le détail des violences obstétricales et aussi de la physiologie de la grossesse et de l'accouchement pour comprendre en quoi certains actes sont violents et viennent entraver la physiologie et créer du danger. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le corps féminin, dans plus de 90% des cas, il est totalement opérant et adapté pour accoucher sans aucune complication. Et encore trop souvent, lorsqu'une femme en travail se présente à l'hôpital, elle va subir un enchaînement d'actes médicaux qui va entraver le processus physiologique de l'accouchement. C'est ce qu'on appelle la cascade des actes, c'est-à-dire que toutes les femmes vont être traitées à la même sauce. On va leur poser un acte qui va générer un acte iatrogène, qui va générer des complications, qu'il va falloir compenser par la pose d'un autre acte, et d'acte en acte, l'accouchement devient pathologique et dangereux.
C'est quoi un acte iatrogène?
C'est un acte qui fait des problèmes, enfin, qui crée des complications. Voilà. Ça peut être par exemple, je veux te soigner, mais en fait je vais te faire plus de mal qu'au départ. Comme par exemple, la chimio, elle a une certaine iatrogénité sur tout ton corps, etc. Sauf que là, le problème, c'est que cette iatrogénité-là, elle va agir directement sur le processus de l'accouchement. Et que ces actes, au départ, ils ont été conçus réellement pour soigner de vraies pathologies, mais le problème, c'est qu'on a standardisé tous ces actes, qu'on les pose en prévention parce qu'on a peur, et que là, on vient créer des problématiques. Du coup, je vais vous lire ce que c'est que la cascade des actes, et je peux vous lire aussi un témoignage d'une femme qui a vécu vraiment cette cascade. Mais c'est vrai que là, je vais vous lire la cascade, mais quand on connaît vraiment la physiologie de l'accouchement, on se rend compte encore plus à quel point c'est dangereux ce qu'on fait aux femmes en travail. Donc la cascade la plus courante est la suivante. On place d'abord la parturiente en position allongée, sur le dos, position antiphysiologique par excellence. On lui pose une perfusion et un monitoring. On effectue un toucher vaginal. On cherche à confirmer la mise en travail par déclenchement. On peut alors percer la poche des os, et ce parfois très tôt pendant le travail. La plupart des femmes en travail ressentent alors les contractions comme étant plus douloureuses, et la poche des os étant percée, le fœtus n'est plus protégé des infections. Il faut donc continuer le processus d'accélération. On peut soit poser une péridurale, soit injecter du sein tout sinon. Si l'on commence par l'un, l'autre va devenir très vite indispensable. Ces actes entravent donc le processus physiologique de la naissance, empêchent les femmes en travail de se mouvoir et d'adopter des positions de confort. Ils inhibent les sécrétions hormonales qui font avancer le travail et supporter les douleurs, et peuvent générer une détresse fœtale. La cascade se poursuit, il faut absolument faire sortir cet enfant, et s'il n'y a pas de détresse trop importante, on peut continuer à injecter du sein tout sinon pour arriver à une dilatation complète et donc augmenter les doses de la péridurale. Au moment d'expulsion, si le fœtus supporte les effets des injections, on va demander à la parturiente de pousser, chose rendue difficile voire impossible par les doses de péridurale. On aura alors recours au forceps, à la ventouse, à l'épisiotomie, et si l'enfant est en détresse, on aura recours à la césarienne. Donc, le récit d'une jeune femme qui a vécu ça. Donc, on m'a posé une perf, j'ai demandé ce que c'était, on m'a dit que c'était du glucose. J'ai appris bien plus tard, en récupérant mon dossier, que c'était de l'ocytocine synthétique. Quelques minutes après, j'ai ressenti une douleur horrible, j'ai eu l'impression de tomber. Et là, ça a été le début de l'horreur, l'angoisse. Je ne savais pas ce qui se passait, la panique, des pleurs, des cris, mon homme complètement démuni, et puis surtout une grosse, grosse solitude. La sage-femme me disait que c'était normal, et j'ai fini par demander la péri. Quand on me l'a posée, j'étais en train de pleurer. Elle a été mal posée, je ne sentais plus les contractions, mais j'avais toujours cette douleur horrible. Je ne sais pas à combien j'étais dilatée quand on m'a posé le cytocine, mais quand j'ai eu la péri, j'étais dilatée à 3, donc on me l'a posé très tôt, le cytocine. Donc ça, quand on connaît la physiologie, on se rend compte déjà que c'est très dangereux de poser de l'ocytocine synthétique aussitôt pendant le travail. On m'a dit, c'est le moment, il faut pousser. Je me suis mise sur le dos, les jambes sur les étriers, j'ai demandé à me mettre sur le côté. On m'a dit non, plusieurs fois. On fait pas comme ça ici. Et là, la sage-femme s'est reculée, le gynécologue est entré et a pris sa place. Je la connaissais pas, elle avait juste passé sa tête par la porte à un moment donné en disant bonjour, c'est moi qui serai là pour la naissance. Je la connaissais pas du tout. Elle s'est juste mise en face de moi, elle ne me regardait pas, elle m'a juste dit « calmez-vous, madame ». Parce que j'étais pas bien, je tremblais, j'avais très froid. Poussez. Et au bout de 20 minutes, je me souviens avoir regardé l'heure. Elle m'a dit « on va vous aider ». J'ai dit « avec quoi ?» Elle m'a dit « on sort les forceps ». Et là, j'ai hurlé. Mais vraiment, j'ai hurlé très très fort parce que le lendemain, j'avais encore super, super mal à la gorge. Et elle a coupé. Elle a sorti ma fille, elle l'a posée sur moi et voilà, c'était... Ma fille était née et moi j'étais assommée. Vraiment, j'avais mal, pas encore physiquement, mais j'avais mal, quoi. Je regardais ce bébé qui hurlait, j'ai pas pu la prendre. J'ai regardé son père, j'ai dit « prends-la ». C'est quelque chose que j'oublierai pas. Là, je me suis encore fait dire « mais arrêtez, c'est bon, on va vous recoudre, c'est bon, c'est pas grave ». C'est pas ce que j'avais envie d'entendre à ce moment-là. Ça a été très très long comme couture. J'ai appris par la suite que j'avais un périnée complet. Un périnée complet, c'est une déchirure jusqu'à l'anus, qui est directement lié des suites de l'épisiotomie, c'est-à-dire que si on n'avait pas coupé, elle n'aurait pas déchiré jusqu'à l'anus. C'est une épisiotomie qui se surdéchire et non compliquée, comme ils disent. Ah oui, voilà, parce qu'elle n'a pas été jusqu'à l'anus. En fait, elle s'est arrêtée juste avant. J'avais plus aucune sensibilité. J'ai fait énormément de séances de rééducation. J'ai eu une non-vie sexuelle pendant plus d'un an. Beaucoup de peur. C'était un no man's land, cette partie-là. Il m'a fallu énormément de temps pour me réapproprier tout ça. Qu'il y a deux sortes de violences obstétricales. Il y a celles qui sont liées au protocole, les violences ordinaires, la cascade ordinaire. Et ces violences-là, elles préparent le terrain des violences obstétricales extraordinaires, qui sont les insultes, le chantage, les humiliations, les maltraitances physiques, le point du mari. Par exemple, le point du mari, tout le monde... Oui, non, oui, non. Alors, le point du mari. Donc, en fait, vous avez... faut imaginer le vagin d'une femme dilatée avec la tête du bébé qui va s'apprêter à passer comme ça. Et il faut aussi comprendre que notre périnée, c'est un assemblage d'une douzaine de muscles qui va nous tenir, qui tient tous nos viscères, comme ça, en fait, et au sein desquels vont... où il va y avoir inséré les différents sphincters. Donc, quand le vagin il s'étend, si je suis dans une position physiologique d'accouchement, si par exemple je suis accroupie comme ça, ou que je suis à quatre pattes, selon ce que le corps du fœtus me guide et me dit de faire, mon périnée va parfaitement s'étirer sur toute sa capacité. Quand on est allongé sur le dos, déjà on a le coccyx qui ne peut plus s'ouvrir, qui ne peut plus bouger, donc la descente est plus compliquée, et le périnée ne va s'étirer qu'en bas. Donc déjà, on va malmener le périnée et on va augmenter le risque de déchirure. Et quand on coupe ici, là, mais on coupe pas que la peau, on va couper dans les muscles releveurs, on va couper vers les bras du clitoris pour ceux qui voient comment est notre clitoris à l'intérieur. Et donc c'est là qu'en fait, on va avoir un risque de surdéchirure. Parce que quand quelque chose, on tire sur une feuille, comme ça, si je suis en train de déchirer une feuille et de tirer sur les bords et que je coupe, ça va filer. Et du coup, le point du mari, c'est une technique de suture qui a pour but de resserrer le vagin plus étroit qu'il n'était à l'état initial pour donner à la sensation du mari, dans les futurs rapports sexuels, des sensations comme si cette femme était vierge ou n'avait pas eu d'enfant, en fait. Voilà. Donc, c'est réellement une mutilation sexuelle. Bon, déjà, l'épisiotomie, c'est une mutilation sexuelle. Mais le point du mari, c'est une mutilation supplémentaire qui est souvent pratiquée sans qu'on on informe la patiente. Et on entend des trucs du genre...
sans savoir si le mari a envie de...
En plus. voilà. Et donc on va dire, ah je vous ai fait quelque chose, monsieur vous allez être content. Par exemple, ce genre de commentaire en salle d'accouchement pendant que la femme est en train de se faire recoudre.
C'est pas gentil de présumer que les maris ont une petite bite, quoi. Enfin, franchement, on n'en sait rien, quoi. C'est pas vrai.
Alors, du coup, cette technique du point du mari, elle est possible aussi parce qu'on a coupé avant, en fait. Donc, du coup, les violences extraordinaires, comme le point du mari, elles invisibilisent de fait les violences ordinaires et elles entretiennent la croyance que les violences obstétricales ne sont que le fait de médecins sadiques et incompétents. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, alors que la première...
Toi, tu veux dire que c'est un système, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est un système institutionnel.
C'est pas juste des monstres... C'est le même système que pour les violences conjugales, par exemple.
Exactement. Ouais. En fait, les violences conjugales, c'est pas un malade... Enfin, c'est pas que un malade qui va... C'est que derrière, il y a tout un système qui permet l'élaboration de cette construction-là. Donc, cette première forme de violence, elle est institutionnelle et elle est agie par l'ensemble du corps médical. Donc la perversion, ce n'est pas le fait d'un individu, mais bien d'une institution au sein de laquelle les médecins ils sont instrumentalisés. Donc du coup, cette impensée-là de la question de la maternité au sein des mouvements féministes, c'est pour nous, il est lié au fait que encore beaucoup de gens pensent que l'accouchement, c'est un événement naturel. Et c'est aussi pour ça que les féministes ne se sont pas aventurées aller s'occuper de ça. Donc, quand les militantes de l'accouchement respecté, elles disent que l'hypermédicalisation doit cesser parce que l'accouchement est naturel, la plupart des féministes institutionnelles, elles récusent ce terme, car elles ont toujours dénoncé et lutté contre l'idée de nature, qui assigne les femmes à la maternité. Pourtant, nous, on s'est aperçus sur le terrain que la plupart des féministes, tout comme la plupart des médecins et des gens, pensent que l'accouchement est naturellement dangereux. Et que de fait, l'hypermédicalisation est justifiée. Du coup, cette idée de nature, elle est centrale dans les deux argumentaires, et c'est un peu comme si l'accouchement, c'était le cheval de Troie d'idée de nature en milieu féministe, puisqu'il est naturellement dangereux. Et ce que je ne vous ai pas dit aussi au sujet de la cascade et des violences obstétricales, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on arrive à l'hôpital et qu'on subit du syncope qui fait des contractions ultra-violentes, et que le bébé rentre en détresse fœtale, et qu'on risque de le perdre et qu'on a des forceps, une épisiotomie, un point du mari que des fois on se fait recoudre à vif parce que soi-disant la péridurale fait encore effet, on ressort, on se dit putain l'accouchement c'est super dangereux quand même. Et du coup ça permet de continuer d'entretenir et on va nous dire bah ouais c'est naturel quoi. De toute façon on le sait historiquement, les femmes elles mourraient en couche etc. Alors dans le bouquin on revient là-dessus aussi sur cette historique, pourquoi on mourrait en couche avant. Pourquoi on ne meurt plus en couche aujourd'hui, sur les conditions de santé, d'hygiène, de vaccination. Et en fait, ce n'est pas grâce à l'obstétrique qu'on ne meurt plus en couche aujourd'hui. C'est grâce à la biologie, à la transfusion sanguine, à notre hygiène, et puis c'est aussi grâce au fait qu'on a de moins en moins d'enfants. Donc on cumule de moins en moins des déformations de l'utérus, etc. Bien, donc l'accouchement est naturellement dangereux, c'est donc le cheval de Troie des natures au milieu féministe. Du coup, c'est très important pour nous de revenir sur cette idée de nature concernant les femmes, la fécondité et de fait l'accouchement. Même si j'imagine qu'ici vous êtes super rodés sur l'idée de nature, on va quand même en mettre une petite couche. Alors, la petite phrase super drôle, c'est donc dénoncer l'idée de nature, c'est pas remettre en question l'existence de ce qui constitue l'environnement dont les humains font partie au même titre que la faune et la flore. Alors, on a rajouté ça parce qu'un jour quelqu'un nous a sorti dans une présentation. Non, mais tu peux pas remettre en cause l'existence de la Lune quand même. Donc là, on s'est dit, bon, ok, qu'on aille un peu plus loin. Quoi. Et donc, évidemment, le concept de nature, il est anthropocentré, c'est-à-dire qu'il pose le point de vue et l'intérêt humain comme supérieur. Ce qui a longtemps justifié ou justifie encore déjà l'exploitation de l'environnement. Le refaçonnage de la nature, entre guillemets, et des êtres historiquement assimilés à la nature, comme les personnes racisées ou féminisées. Donc il s'agit de mettre à jour, au jour, une doctrine qui relie l'idée de nature, la différence des sexes, et l'essentialisme, trois concepts ayant pour point commun de poser comme une réalité objective ou naturelle l'existence de deux et seulement deux sexes, bien distincts et hiérarchisés. Donc l'historien Thomas Sacker a montré en 92 que le modèle des deux sexes de genre, et donc de la différence des sexes, n'est en réalité apparu en Europe qu'au XVIIIe siècle, et qu'il succédait au modèle du sexe unique, présent dans l'Antiquité, et faisant de la femme, là je dis la femme, c'est pas moi, c'est eux,
c'est l'autre,
c'est les autres, un moindre mâle. Et non l'opposé ou le complément de l'homme, ce qu'on vit aujourd'hui. Anne Fausto Sterling, qui est biologiste, féministe, a expliqué comment, à partir donc du XVIIIe siècle, les biologistes se sont évertués, non sans contradiction, à essayer de prouver l'existence d'un dualisme sexuel, alors que la détermination du sexe est en réalité beaucoup plus complexe, la détermination biologique du sexe, et qu'elle a plusieurs critères. Des critères anatomiques, gonadiques, chromosomiques et hormonales. Donc elle a proposé de remplacer notre système à deux sexes par un système à cinq sexes. Donc en sus des hommes et des femmes, on devrait accepter pour l'instant, au vu de l'état de la recherche, les catégories des herms, les hermaphrodites véritables, les merms, les pseudo-hermaphrodites masculins, et les ferms, les pseudo-hermaphrodites féminins. Et même si nous savons aujourd'hui que la réalité plurielle des corps ne peut être réduite à cette dichotomie sexuelle, sa persistance assure celle du genre, un système social qui construit les inégalités entre les sexes et qui a été analysé par le féminisme matérialiste dans les années 70. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'anatomie qui a créé le genre, c'est le genre qui est venu mettre du sens sur l'anatomie. Donc, alors qu'on a compris que les inégalités et l'oppression de genre sont produites par cette différenciation sociale, un autre féminisme de la deuxième vague, qualifié de différentialiste ou d'essentialiste, veut resignifier et revaloriser le féminin et prône l'égalité dans la différence. On est différent, mais on est égaux.
C'est trop beau.
Donc ce mythe,
on y croit.
Alors, tous ceux qui subissent ces différences savent très très bien que donc, c'est un mythe. Ce mythe va réussir à s'imposer et ce féminisme va largement s'institutionnaliser en participant à la mise en place de lois et de mesures destinées à promouvoir l'égalité des sexes. Donc, certaines associations financées par l'État vont peu à peu se retrouver placées sous son autorité et perdre leur autonomie. Ce féminisme-là, qui prétend lutter pour l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qui est incapable de définir les personnes autrement que par leur sexe biologique masculin ou féminin, a finalement renforcé la différence des sexes, alors que celle-ci a toujours servi à justifier et à produire des inégalités. Donc dans les années 70, quand les féministes elles se sont légitimement focalisées sur l'accès à la contraception à l'IVG, elles ont abandonné la question de l'accouchement et de sa prise en charge. Cette lutte pour le droit à disposer de son corps donc, a abouti à l'obtention des droits à la contraception et à l'avortement avec les lois Neuwirth et Veil en 67 et 75 et a remplacé l'ancien contrôle juridique de la fécondité par un contrôle médical. Du coup, ces féministes-là, elles ont cédé au corps médical la gestion de la fécondité des femmes. Et donc, c'est un compromis patriarcal avec le corps médical. Et qui s'est fait à partir aussi d'une vision négative partagée de la fécondité féminine. Qui serait une malédiction pour les féministes. La fécondité féminine, pour beaucoup de féministes, c'est une malédiction. Et pour les médecins, c'est un mal à soigner. Alors, on entend par mal à soigner, voilà, t'as la ménopause, il faut aller te faire soigner. T'as tes règles, il faut aller te faire soigner. T'es féconde, bah, il faut prendre un truc, il faut faire quelque chose. Quelles que soient les étapes de la vie sexuelle d'une femme, de toute façon, il faut passer par la case médecin, il faut vérifier, il faut dépister, il faut contrôler, il faut surveiller, etc. Donc, du coup, ces féministes institutionnelles, elles ont laissé la grossesse et l'accouchement à l'état de nature. Alors même qu'elles rejettent les fondements de l'idée de nature. Et le film Dumlac, Regarde, elle a les yeux grands ouverts, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, montre des accouchements à domicile et une discussion où les femmes se demandent comment désormais vont se passer les IVG pris en charge par la médecine. À la fois, c'est super, on a le droit d'avorter, on n'est plus dans l'illégalité, mais en même temps, qu'est-ce qui va se passer dans la prise en charge des avortements? Et alors, en abandonnant l'accouchement à l'idée de nature, elles l'ont abandonné à qui? Bah, aux essentialistes. Et du coup, on retrouve l'idée de nature et cette vision binaire du monde et des êtres dans beaucoup de mouvements qui militent pour l'accouchement respecté ou alternatif. Et qui sont animés par une croyance qui assimile le respect de soi et de son corps. Et notamment l'autonomie en matière de santé sexuelle et reproductive. Et ça, elle l'assimile au respect de la nature. Dans beaucoup de ces milieux, se respecter soi, ça signifie respecter sa nature féminine, en fait. Donc forcément, c'est problématique. Et c'est problématique parce qu'il véhicule, sous couvert de valeurs de lutte écologiste et parfois anticapitaliste, le système de genre dont on vient de parler. Et que ça reproduit des oppressions et des inégalités. Donc cette idée qu'il y aurait un féminin naturel ou une femme naturelle renvoie implicitement au fait qu'il n'y aurait qu'une seule façon d'être une vraie femme, ce qui pousse de nombreuses femmes à essayer de coller à un modèle confus qui leur font ressentir qu'elles ne sont pas normales si elles n'y arrivent pas. Et dans le monde donc presque merveilleux de la complémentarité des sexes, les violences et l'oppression de genre ne sont pas appréhendées comme issues de rapports de pouvoir entre classes et de sexe, mais comme une disharmonie entre des êtres masculins et féminins blessés ou en souffrance. Et pour guérir, donc là on retrouve l'idée de la pathologisation qu'on trouve chez la sexualité des femmes et de l'accouchement, pour guérir, hommes et femmes devraient commencer par réconcilier en eux-mêmes les parts masculines et féminines. La croyance d'ailleurs, donc au sein de ces mouvements-là et de cette idée-là, la croyance selon laquelle on a tous en nous du masculin et du féminin, n'est jamais remis en question. Donc c'est à cette condition donc que ces personnes pourraient accéder à des relations harmonieuses et respectueuses. Mais dans cette apparente symétrie, seul le féminin est sacré et brandi comme un étendard ou un trophée qu'il faut protéger, contrôler. Et donc l'idée de nature semble indestructible et elle masque donc la part du social et elle nie les interactions entre les humains et leur environnement. Et l'exemple de l'accouchement, il est emblématique de cette invisibilisation puisqu'il peut être perçu soit comme naturellement dangereux, soit comme naturellement physiologique. Et une tension particulière réside dans le fait qu'aujourd'hui, il est démontré que le respect de la physiologie assure une sécurité tant pour les femmes mères qui accouchent que pour l'enfant. C'est-à-dire qu'on le sait, si on respecte la physiologie, on ne met pas en danger la femme qui est en train d'accoucher, ni le fœtus qu'elle porte. Alors du coup, forcément, on a envie de s'accrocher à l'idée de nature, quoi. Et donc, on sait aussi que son non-respect constitue en soi une violence ordinaire, du type épisiotomie, entrave à la liberté de mouvement, non prise en compte des besoins fondamentaux, et que ça permet donc d'installer ce climat propice aux violences extraordinaires. Alors aussi, c'est illusoire de croire que la physiologie, elle n'est pas influencée par notre environnement et qu'elle est stable dans le temps. Donc depuis la naissance de l'humanité, le social a façonné le corps des femmes, comme celui de tous les autres êtres humains. Et donc on sait que la physiologie des accouchements d'aujourd'hui n'est plus la même que celle d'il y a un siècle. Tout comme on sait que le vécu singulier de chaque femme influe sur sa physiologie. Donc en fait, il n'y a pas une physiologie. Chaque femme va avoir sa propre physiologie d'accouchement. Donc du coup, d'un point de vue éthique et politique, il convient de parler d'accouchement physiologique et social, et non d'accouchement naturel, pour nommer l'accouchement respecté. Et donc, il nous paraît primordial d'être consciente de l'importance du sens des termes que nous utilisons pour penser et communiquer au fil de nos vies, de nos engagements, afin de ne pas réitérer et invisibiliser les oppressions que nous subissons et qu'on souhaite combattre. Donc voilà, l'idée de nature, elle est confondue souvent avec la notion de physiologie, comme si elle n'était pas influencée par l'environnement et comme si elle était stable dans le temps. C'est quand même assez dingue que biologiquement, les femmes qui nous ovulent, qui ne sont fécondables que 4 jours par mois, ce soit elles qu'on attribue systématiquement cette notion de fécondité, alors qu'on sait que dès qu'un homme éjacule, c'est la teuf du potentiel de fécondité, en fait, et qu'en plus, que ce contrôle social va féminiser la fécondité, et que pour le rendre naturel, pour rendre ce fait-là naturel, on va être obligé d'agir de manière extrêmement complexe par des manipulations sociologiques sur les conditions biologiques de la sexualité humaine. Donc c'est par exemple des manipulations sociologiques, c'est par exemple à une certaine époque c'était le mariage avec l'autorité parentale détenue par le père, la transmission des biens par le père, la fidélité dans le couple, le fait que dès qu'une femme elle a une sexualité visible, intense, bah du coup c'est une pute, du coup c'est pas bien, du coup bah en fait elle reste chez elle à la maison, puis on sait que on va pouvoir contrôler ce qu'elle fait de son corps et du coup ce qu'elle fait de sa fécondité et du coup on sait d'où vient l'enfant qu'elle porte, etc. Tout ça, ce sont des manipulations sociologiques qui rendent le corps féminin reproducteur au service de la société.
Donc, par rapport à l'accouchement, l'histoire de la naissance en Occident montre que l'accouchement a longtemps été perçu comme faisant partie intégrante de la sexualité et de l'intimité. On a du mal à le croire aujourd'hui, mais voilà, les femmes, elles accouchaient le sexe caché, exclusivement dans l'entre-soi. Donc, les hommes, les personnes porteuses de pénis ne pouvaient pas rentrer dans ces endroits-là. On estime que aussi environ 20% des femmes aurait potentiellement des orgasmes ou du plaisir, enfin ou des orgasmes.
Ont des orgasmes. 20% des femmes.
100% des femmes pourraient avoir potentiellement de. Mais là, il y a 20% des femmes qui auraient des orgasmes ou du plaisir pendant leurs accouchements.
Quand il est physiologique et respecté, sinon il ne faut pas rêver.
Progressivement, l'arrivée des médecins autour des femmes en travail a contribué à désexualiser ce moment. Les aidantes ont été exclues. Les femmes accouchantes, elles ont été découvertes. Et allongées, exposant leur sexe d'abord à la vue des obstétriciens, puis plus largement en institution, à la vue de tout le personnel soignant, toutes ces personnes qui rentrent et qui sortent dans la salle d'accouchement. Cette désexualisation, elle a permis d'instaurer la pratique des touchés vaginaux multiples, répétés, et de l'épisiotomie, l'introduction de forceps et de ventouses, en toute légitimité, et aussi rendre l'acte d'accoucher public, alors que c'est quand même aussi un acte de la vie privée.
Il faut savoir que la plupart des actes, ils sont posés sans consentement, qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent donc allongées, les pieds dans les étriers, la vulve complètement exposée, avec la porte en face, par exemple, qui va être entrouverte, avec des gens qui passent dans le couloir. ou des gens qui rentrent prendre un truc, ou une femme de ménage qui vient passer la serpillière dans la salle où cette dame elle est, quoi. Et que aussi, quand on introduit un doigt ou n'importe quoi dans un vagin sans avoir demandé le consentement, ça reste un viol. Et du coup, toute cette désexualisation-là, elle permet de faire toutes ces choses-là sans que ce soit mal vu, mal interprété et même mal vécu, en fait, parfois. C'est normal, je suis en train d'accoucher, je montre ma chatte à tout le monde, c'est vraiment super, quoi. Bien sûr, oui, il y a des femmes extrêmement pudiques qui acceptent ça complètement normalement parce que c'est désormais, c'est comme ça, quoi. C'est normal. Plein de femmes ne savent pas à quoi ressemble leur sexe, n'ont jamais vu leur propre col de l'utérus, n'ont jamais mis de miroir. Et en fait, la plupart des gens qui savent à quoi ressemble leur sexe, ce sont des hommes et des médecins.
Voilà, donc là, en fait, on a parlé un peu de comment il y a eu une désexualisation progressive de l'accouchement au cours de l'histoire. Bon, enfin, on passe très vite, hein, sur des siècles et des siècles. Plus tard, on arrive donc... en France et en Europe, les luttes féministes de la deuxième vague, hein, pour l'accès à la contraception et à l'IVG, enfin pour le droit, les lois, etc. Ces luttes ont produit une autre forme de dissociation entre la sexualité et la procréation, donc avec la libération, et en tout cas permettant de libérer la sexualité féminine et hétérosexuelle du risque de grossesse. Et voilà ce que nous on pense, c'est que les circonstances au cours desquelles la sexualité et la procréation ont été dissociées présentent, donc toutes ces circonstances, hein, dont on vient de parler, présentent en fait deux images inversées de l'autonomie. D'un côté, la sexualité, elle est dissociée de la maternité, et cette dissociation participe à émanciper les femmes. Et de l'autre, l'accouchement est séparé, coupé, dissocié de la sexualité, et cette séparation contribue à leur oppression, les violences obstétricales, etc. Et donc, c'est là la subtilité du truc, c'est que le caractère émancipateur de la dissociation entre la sexualité et la maternité, même si c'est pas le but, il participe à invisibiliser la dissociation de l'accouchement, entre l'accouchement et la sexualité. Et du coup, c'est un peu comme si le versant de l'émancipation participait aussi à masquer l'oppression et le caractère d'oppression et le caractère politique de l'accouchement et de ce qui se passe dans les salles d'accouchement.
Au départ, dans la sexualité humaine, il y a une dissociation sexualité-reproduction qui est normale, qui est physiologique. À chaque fois qu'on baise, on ne fait pas forcément des enfants. Ouais. Et donc après, il y a eu historiquement une accentuation sociale de cette dissociation sexualité-procréation, notamment dans les années 70, quand on a eu accès à l'IVG et à la contraception, où là, on pouvait pleinement baiser tout le temps, sans risquer de tomber enceinte quand on avait une sexualité hétérosexuelle. Mais du coup, dans la situation de l'accouchement, quand on ne reconnaît plus le caractère sexuel de l'accouchement, le fait qu'on puisse par exemple avoir des orgasmes, qu'on ait une intimité sexuelle, qu'on puisse avoir envie de se toucher, de se retourner, de se mettre à quatre pattes, de grogner, une femme qui accouche physiologiquement, si on ferme les yeux et qu'on écoute, on a l'impression qu'elle est en train de baiser, très clairement. Du coup, on a dissocié cette dimension-là de l'accouchement, de la sexualité, on l'a poussée pour pouvoir mettre des doigts, couper, introduire des forceps. Et donc ça participe à l'oppression des femmes pendant l'accouchement. Ça a permis aussi de maintenir l'impensée féministe. Hein. Puisqu'il fallait reconnaître le caractère sexuel de l'accouchement pour faire cesser les violences obstétricales. Et du coup, par rapport à la question de l'IVG, on ne peut pas revenir là-dessus, sur cette dissociation sexualité qu'on a durement gagnée. Donc du coup, l'hypermédicalisation de l'accouchement, c'est une forme contemporaine de domestication de la reproduction. La religion aussi, elle est intervenue là-dessus. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu un pape précisément qui a dit « Dorénavant, les femmes, elles n'ont plus le droit d'accoucher à quatre pattes parce que c'est trop bestial, c'est trop sexuel. » Ça aussi, c'est dans l'histoire, en fait. C'est-à-dire que le social, il va toujours venir agir sur cette dissociation sexualité-procréation.
Les institutions religieuses, elles sont dans le même sens que les institutions médicales, en fait, pour la dissociation.
Elles ont participé à désexualiser l'accouchement. Et même, par exemple, dans les années 50, pour l'accouchement sans douleur, pour développer la technique, il a fallu que le pape de l'époque donne son accord pour que cette pratique elle puisse se répandre massivement dans les hôpitaux. Donc l'hypermédicalisation de l'accouchement, c'est une forme contemporaine de domestication de la reproduction, où toutes les fonctions physiologiques opérantes pour accoucher vont être entravées et recréées artificiellement. Avec de l'ocytocine de synthèse, inhibition de la poussée spontanée, l'orientation vers une poussée dirigée, les forceps, la ventouse, la contrainte en position allongée, l'empêchement de la dilatation complète du périnée, donc on va couper, c'est-à-dire que tout ce que notre corps il sait faire, on l'empêche et on va créer un objet ou une chimie pour le faire à la place du corps. Et donc ça nous renvoie à une autre citation de Paola Tabé, où là, en fait, ce qui est hyper intéressant dans les travaux de Paola Tabé, c'est qu'elle a créé tous les outils pour comprendre ce qui se passe pour l'accouchement, sauf qu'elle ne parle pas d'accouchement. En fait, en tout cas. Donc elle dit, en considérant les moyens de contrôle de la reproduction, nous sommes confrontés à des formes de contraintes présentant des degrés variables de violence qui, à leur maximum, les plus explicites et les plus évidents, peuvent aboutir à l'utilisation des femmes comme bétail à reproduire. Alors moi qui étais en salle d'accouchement, je peux vous dire que c'est vraiment... Parfois, c'est vraiment ça, c'est vraiment du bétail à reproduire. Donc le clivage qui oppose les militantes de l'accouchement respecté aux défenseuses de l'hypermédicalisation reproduit les divisions entre les femmes et les divisions entre les féminismes qu'on a pu évoquer, par exemple entre l'essentialisme et le matérialisme, ou entre le matérialisme et le queer. Et la question, c'est pas de choisir entre l'accouchement hypermédicalisé ou l'accouchement physiologique. Pour nous, l'enjeu véritable, c'est vraiment celui de l'autodétermination de sa vie sexuelle et reproductive, et que cette autodétermination, elle doit aussi inclure l'accouchement. Donc, puisque les violences obstétricales sont une preuve matérielle de l'oppression des femmes porteuses de fécondité que constitue la prise en charge de l'accouchement, on peut maintenant envisager par quelles pratiques corporelles celle-ci pourrait s'en dégager. Donc l'accouchement respecté, souvent défendu par des mouvements essentialistes, peut être resignifié à la fois comme un acte sexuel et comme un acte d'insubordination à l'emprise patriarcale de la médecine. Le respect dont il est question n'est pas nécessairement ou uniquement celui de la physiologie, même si on sait que c'est ça qui protège la vie des femmes et des enfants à naître, mais le respect du choix de chaque femme. Donc quand une femme doit faire face à une réelle pathologie, par exemple, durant sa grossesse ou son accouchement, elle doit pouvoir toujours garder son autonomie face aux conditions de soins et de médicalisation qui lui sont proposées. Les possibilités qu'offre l'accouchement d'y respecter peuvent donc constituer pour les femmes mères des lieux où l'on performe l'accouchement de manière non conventionnelle et où on vient troubler le genre spécifique de la mère et lutter contre des interpellations permanentes et des assignations à la capacité et à la pathologie. Les femmes qui accouchent deviennent alors des sujets politiques à part entière auprès des prostituées, des femmes voilées, des mères et des autres personnes ostracisées. Quel que soit le degré de liberté du choix de la situation de grossesse, le moment de l'accouchement peut ainsi devenir pour une femme en travail qui parvient à faire respecter son besoin d'autonomie, une expérience qui peut lui faire éprouver sa capacité d'agir sur sa vie.
Quand on parle de femme en travail, qu'est-ce que vous entendez par là ?
C'est une femme qui est en train d'accoucher. On utilise beaucoup ce terme dans les bouquins pour créer quelque chose dans le cerveau des gens, pour envoyer que la maternité, la reproduction, c'est un travail qui s'inscrit au sein du capital en fait. Et que donc c'est aussi un travail exploité. Et donc pour envoyer aussi au fait que c'est pas si naturel que ça, que de porter un enfant, que de le mettre au monde, que de l'élever. Que c'est pas facile pour toutes les femmes, etc. Et que de toute façon, la maternité dans notre société implique à côté tout un autre travail domestique, éducatif, de soins, d'écoute, qui n'est pas valorisé et qui est un travail exploité, qui constitue une des bases du capital en fait.
en référence aussi au travail de Paola Tabé, qui parle, dans l'ouvrage qu'on a cité là, qui parle de, du travail reproductif, donc voilà, travail reproductif, travail sexuel, la division dont on a parlé aussi, des femmes en catégorie, les mères d'un côté, donc les femmes qui sont assignées au travail reproductif, et puis les femmes qui sont assignées à la sexualité plus récréative, au travail sexuel de l'autre.
Et en fait, au départ, c'est un vieux terme d'obstétrique, femme en travail. Mmh.
Le travail de l'accouchement. Ouais. Mmh.
Physiologie, c'est hyper intéressant et important, et pour moi le plus grave c'est surtout que ce soit une connaissance perdue du côté des soignants, parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas transmis et qui disparaît, et en France c'est la cata, mais il y a des pays où c'est vraiment par exemple le taux de césarienne à 90% et tout, et il y a des personnes qui rapportent que c'est vraiment presque des connaissances qui se disent sous le manteau et puis qui juste disparaissent quoi, quand on voit plus d'accouchement. Donc on laisse un peu faire le cours des choses, on ne sait plus que c'est possible et on perd cette connaissance-là. Et en France, c'est quand même, moi j'ai fait une formation de sage-femme et c'est quand même pas du tout transmis cette connaissance, très peu quoi. Et du coup je trouve qu'il y a un mouvement vraiment intéressant de se réapproprier cette connaissance-là quand on est la femme enceinte en passe d'accoucher. Mais qu'à l'inverse, elle n'est pas du tout transmise du côté des soignants. Et du coup, ça devient le rôle de la femme elle-même de porter cette connaissance-là. Et presque quelque chose du domaine de la performance. Enfin, genre, il faut que ce soit physiologique. Et comme si ça tenait à elle que ce soit physiologique. Et du coup, alors que quand on explique le processus, c'est pas nous qui allons garantir la physiologie de notre accouchement. Parce que la physiologie, finalement, en dehors de ces processus de temporalité, tout ça, la seule chose qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt quand on respecte les volontés de la femme et qu'on l'écoute et qu'on la juge pas quand elle fait des cris bizarres ou qu'elle a des envies contradictoires, qu'on est en train de respecter à peu près ce qui se passe en termes de physiologie. Mmh. En fait, je voulais aussi dire que cette idée de la physiologie, moi, je préférais qu'on la remplace par comment est-ce que le respect d'une femme qui accouche, quoi. Et pas s'attacher à un truc de la physiologie, parce qu'en plus ça renvoie fort à l'idée de nature, moi, quand même, malgré tout, même si on peut essayer de le déconstruire par tous les bouts, après on arrive un peu dans des impasses de la physiologie, je pense, c'est en train un peu quand même de remplacer le mot naturel, et normal, et voire meilleur accouchement, quoi. Enfin, et ça met quand même grave la pression pour les gens. Moi je trouve qu'en salle de naissance, les pères, enfin, accompagnants, géniteurs, un peu rodés à cette initiation à la physiologie, ils sont les gardiens du temple de la physiologie et aux dépens de leur meuf. Donc du coup, finalement, ce qui a été dit, c'est qu'on n'a pas compris la physiologie, parce que c'est pas d'être un gars accompagnant qui va pas respecter les limites de la meuf, puisque toi, tu vas garantir la physiologie, tu vois, enfin, malgré elle. Enfin, en fait, on se retrouve dans un extrême aussi de la physiologie, en fait, donc la nature qui devrait revenir au galop par des gens qui ont eu... par le côté de l'initiation vite fait à cette notion de physiologie qui quand même souvent cache mal son mot de naturel quoi. Enfin voilà, plein de trucs comme ça, mais il y a vraiment ce truc de c'est vraiment une connaissance qui se perd dans l'institution médicale, et je parle pas que des gynécos et tout, mais parce que c'est plein de monde, un hôpital où enfin c'est les gens de la PMI, enfin tout le monde va pas être suivi par une sage-femme qui fait un suivi global et tout, mais du coup c'est des connaissances qui ailleurs sont pas du tout partagées. Et d'un autre côté, dans certains milieux, ça veut dire nature, quoi, c'est sûr. Enfin, ça veut dire puissance féminine, ah oui, je sais pas quoi. Mmh. Et moi, par exemple, même si je l'observe et je crois à zéro et de la physiologie, mais moi, j'ai aussi vu des femmes à 8 cm qui sont censées être complètement dans l'abandon de soi, sa vraie féminité bestiale, et qui étaient à 8 à gérer comme des malades, et puis qui, entre-temps, disaient « Tu vas attraper ça, c'est posé là-bas, nanana, et tout. » Et moi, ça me décalait bien de mon truc à 8 cm, on n'a plus de cerveau. On est le cerveau reptilien, je sais pas quoi et tout. Non, en fait, juste elle était elle-même pour l'avoir connue avant. Oui, oui. Et toi, t'es là. Ah oui, mais toi, t'es vraiment la nana qui lâche rien et qui veut t'occuper de nous alors que t'as couché. Bah, tu continues à le faire, quoi. Et il y avait presque un peu quelque chose qui, moi, au début, me faisait dire ah non, mais faut qu'elle lâche. Et non, mais tout va bien, quoi.
Le social, il met vraiment son empreinte là-dessus, parce que par exemple, comme tu dis, non seulement on perd du savoir, mais on perd aussi des capacités. Et là maintenant, on est en train de se rendre compte que toute la première phase du travail, elle est en train de s'allonger, parce que on accouche de plus en plus sous produit, et que du coup on est en train de muter. Et qu'on vient. Ouais. Et qu'il y a par exemple des espèces animales racées à qui on ne fait que des césariennes et dont les femelles ne sont plus en capacité d'accoucher, quoi. Ça va ensemble, quoi.
Nous, dans notre analyse, on parle quand même d'une emprise médicale à la fois patriarcale et capitaliste. L'État, avec le ministère pour les droits des femmes, et justement ce dont on essaye de parler, du fait que cette vision-là de l'égalité des hommes et des femmes, ça renaturalise le genre, alors qu'on dit qu'en fait on fait les ABCD de l'égalité, etc. Puis quelque part, il y a quand même une vision des êtres, il y a les hommes, les femmes, et puis avec quelque chose de, voilà, d'une illusion de quelque chose de symétrique entre les hommes et les femmes, etc. Et l'État ne remet pas, enfin, peut-être là il y a des choses qui peuvent être mises en place pour que des médecins modifient leurs pratiques, que des protocoles peut-être y soient assouplis, etc. Mais là, les politiques étatiques par rapport à cette question, en tout cas l'emprise patriarcale de la médecine, elle ne sera pas remise en question par l'État. Ça, et du coup, c'est, je trouve que là, c'est un peu étrange ce qui se passe. L'État vient voler au secours des femmes, l'emprise des méchants médecins. Enfin, il y a un peu ce truc-là, quoi.
Ça va être comme l'avortement, aussi. Tu gagnes parce que tu mènes une lutte, qui ensuite est récupérée. Ouais. On va te mettre un petit peu de poudre aux yeux, de gâterie, et tu vas lâcher parce que tu auras gagné 2-3 trucs. Ben, les femmes auront peut-être un peu plus de marge, ou on leur aura, madame, je peux vous mettre un doigt, oui, il y aura quelques formes.
Ou alors peut-être que les médecins qui auront commis ces actes vont être pathologisés et montrés comme des monstres, comme on présente comme des monstres les hommes qui tuent leurs femmes ou qui battent leurs femmes, enfin je sais pas, il va y avoir des mécanismes en tout cas de la société qui vont faire pour à la fois défendre les droits individuels, parce qu'en fait je pense qu'on tend vers, de plus en plus vers ça, et en même temps enrober ça effectivement dans un truc qui permet que le système y continue.
Non, mais faut pas être pessimiste comme ça. Hein. Moi, je pense qu'il y a des petits groupes qui vont faire des discussions, et puis ça va être super. Papy, s'il faut, fera la révolution, et puis on prendra des armes. Puis
tous les méchants, ils se trompent par la fenêtre, ils sont plus là.
Ouais. Les méchants médecins, ils se trompent par la fenêtre.
Tell them all that I'm gone to sleep.